France Culture.
Lorsqu'elle arrive sur scène, c'est une autorité immédiate. C'est une pose, déjà un port de tête. Ce port de tête qui permet à la colonne d'air d'être positionnée pour sortir la note juste. Par-delà l'attirail, les robes, le soin qu'elle apporte, souvent assez coloré d'ailleurs, elle a une position enjouée. C'est une femme qui avait une joie de vivre. Mais le moment scénique est un moment quasi mystique où elle a rendez-vous avec quelque chose qui la dépasse elle-même. C'est ce qu'en fait une grande chanteuse.
Dès le départ, elle va être... on va dire perçue comme une diva, parce qu'elle a toutes les caractéristiques de la diva. Elle est belle, talentueuse. Elle incarne cette image de la femme un peu inaccessible, parce qu'on est encore dans ce système de diva à l'oriental, à cette époque-là, où la femme, la voix de la femme n'est pas très entendue, mais elle ne chante pas, elle n'est pas mise au devant de la scène facilement.
La diva du monde arabe, c'est vraiment l'idée que une femme incarne à un moment de l'histoire, une époque, une patrie, on pourrait dire même une matrie, si on veut être un peu moderne dans la désignation des genres. C'est une femme dont le charisme fait d'elle une personnalité quasiment politique, voire universelle en fait. C'est quelqu'un dont la personnalité transcende ses origines et ce qu'elle est pour incarner un pays. Tout comme Oum Kalsoum et Fayrouz, Warda est une diva.
C'est une femme extraordinaire. Pas facile d'être objectif. Je fais partie de sa famille, son neveu. Et il est très difficile pour moi de dire Warda. J'ai jamais dit Warda. Je l'appelais toujours Tata. Un petit peu ringard à 70 balais, dire Tata. Bon, mais c'était ma tante. Warda est née à Paris, à l'hôpital Bichat. Quand elle est née, c'était le cinquième enfant, l'accouchement a déroulé très rapidement et le père Ftouki était un petit peu en retard pour l'accouchement. Il est venu avec une rose et puis la sage-femme lui dit « Alors, monsieur Ftouki, on l'appelle comment ?»« Georgette ?» Il était comme ça, il a regardé la rose, il a dit « On l'appelle Warda. »
Warda Al-Jazairia, 1939-2012, La Rose d'Algérie. Un documentaire de Jeanne Mouchi, réalisé par Somanina.
Warda, elle ne connaît pas l'Algérie. C'est son père qui va lui faire aimer l'Algérie. Il a fait aimer à tous ses enfants son pays, qui avait soif de liberté, de lutte contre l'oppression, le colonialisme et contre la hougra. La hougra, c'est le mépris, c'est abuser de son pouvoir, c'est opprimer quelqu'un, l'humilier. Et ça, c'est un trait de caractère que Warda prendra de son père. La fierté, le nif. Et de sa mère, elle va prendre d'autres choses. Elle va prendre la tendresse, la douceur. Mais pas que. Elle prendra goût à écouter des chansons que chantait sa maman. Et c'est ça qui va un peu forger son oreille musicale avec cette culture orientale. La voix de Warda vient un peu du côté de la famille Hamout. Elle aimait dessiner. Elle aimait le patin à glace. Elle n'était pas très fervente de l'école, mais bon, elle était surtout très complice avec mon père pour faire les 400 coups. Ils aimaient tous la musique dans la famille. Et puis, Warda chantait très tôt. 5 ans, 6 ans, on s'apercevait déjà qu'elle avait une belle voix. Et mon père, voyant qu'elle avait une belle voix, il la faisait monter rapidement sur la table. Elle chantait un petit peu, et puis elle chantait, donc tout le monde applaudissait, et mon père passait, récoltait des sous, et puis il allait faire, il allait à la fête foraine. Donc vous avez Warda, déterminée, douce, travailleuse, et comme son père, elle va bâtir sa carrière. Quand mon grand-père a souhaité acheter le tam-tam, il fallait trouver des sous. Hein. Un jour, il rentre à la maison, anxieux, inquiet. Et maman Nefissa vient le voir et lui dit « Yabaftouki, perftouki, je vois que tu es inquiet, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi. » Il dit « J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent parce que voilà, je veux acheter un établissement qui est bien, avec un immeuble au-dessus. » Il lui dit, Baftouki, combien tu as besoin? Et il lui dit un chiffre. Elle lui dit, d'accord. Et elle lui met l'argent sur la table. Le père Baftouki regarde l'argent comme ça sur la table. Il dit, mais c'est quoi ça? Ben, tous les soirs, quand tu rentres, tu ne te rends pas compte, tu as plein de billets dans la poche. Je te prends un billet, je le cache. Voilà les billets, tu les retrouves. Je ne m'avais pas posé la question d'où venait le mot tam-tam. Parce qu'initialement, il ne devait pas s'appeler comme ça. Il devait s'appeler le Grand Maghreb. Ça a été refusé par la préfecture. Puis lorsqu'ils ont dit, on va l'appeler tam-tam, il lui a dit, mais ce n'est pas une consonance très maghrébine, ça. Il a dit, non, pas du tout. En réalité, tam-tam, ça voulait dire bien autre chose. Hein. T-A-M, T-A-M, Tunisie, Algérie, Maroc.
Alors, dans les années 50... Des cafés émergent et puis aussi des cabarets.
Véronique Riffel, commissaire d'exposition spécialisée dans les arts du Moyen-Orient.
On appelle les cabarets orientaux, on les trouve plutôt dans le quartier latin et aussi dans le 15e arrondissement, mais surtout quand même dans le quartier latin. Et ce sont des cabarets qui restituent une sorte de décorum oriental tel qu'on l'imagine, avec voilà, un peu comme des maisons mauresques et puis une ambiance. C'est un endroit où... On retrouve aussi la nourriture du pays, donc souvent le couscous, après les danses, les chants. Donc c'est des lieux qui deviennent importants pour des communautés qui ne trouvent pas forcément de place ailleurs. Et donc ils sont obligés de créer finalement leur propre lieu. C'est pas des lieux savants, c'est des lieux de spectacle, de divertissement. Mais petit à petit, en fonction de la politique... Ce sont des lieux qui ont une dimension politique pour plein de raisons, en fait. Au moment notamment de la guerre d'Algérie. Alors, il y a le quartier de la Goutte d'Or, hein, qui joue un rôle important et où les gens se réunissent, les différents mouvements politiques et donc des lieux qui sont très regardés par les pouvoirs politiques français. Mais les cabarets orientaux du quartier latin aussi. C'est-à-dire que on sait ou on soupçonne qu'il y a des activités qui se font aussi bien pour regrouper des fonds. Les différents artistes qui se produisent, parfois par métaphore, par symbolisme, donnent une espèce de souffle un peu politique, de soutenir le pays, notamment l'Algérie. Et puis, tout simplement, les clients parfois sont aussi des policiers qui regardent ce qui se passe. En fait, c'est aussi un peu des lieux de surveillance. Donc le cabaret Tam Tam, qui est installé rue Saint-Séverin, joue un rôle de premier plan. Parce que déjà, il a un certain rayonnement, donc il est repéré, il est connu. Et puis, on dit que le père de Warda avait des activités politiques.
Le père Stouki, nationaliste de la première heure. Dès le déclenchement de la lutte armée, il a adhéré immédiatement au FLN. Il a mis son temps, toute son ardeur, et l'ardeur de sa famille. C'est-à-dire que tout le monde faisait ce qu'il pouvait, collecteur de fonds, pour l'un. Pour l'autre, il apportait des documents. Pour l'autre, il faisait quelque chose. Même Warda, elle ne le savait pas, mais elle avait parfois dans son cartable des documents qu'elle devait remettre et elle ne le savait pas. Chacun faisait ses petites choses.
Tam Tam, c'est un endroit où viennent chanter des chanteurs arabes, voire même des gens d'Égypte, des personnes éminentes. Warda va s'y produire.
Mario Chouéry, chargé de mission à l'Institut du Monde Arabe.
Et parfois, on la réveille le soir. C'est une enfant de 11 ans, elle dort. Mais Farid Latrache est là. Il vient du Caire. Mohamed Abdel Wahab. Et là, on parle vraiment des monstres de la musique arabe. Et elle descend, elle chante devant eux. Là, elle sera repérée par un ancien journaliste, un juriste également, qui va être le directeur des éditions Pathé Marconi, des disques Pathé Marconi. Ahmed Ashraf, quelqu'un d'important, qui la repère et qui lui signe un contrat.
Ostwanat Pathé, El Fatat Warda.
Et à ce moment-là, elle va commencer à montrer des signes d'une chanteuse à la voix très prometteuse, qui a une posture et une maturité.
C'est Anna Moulali, chanteuse.
Donc c'était déjà en fait une graine de chanteuse qui était déjà promise, on va dire, à un avenir exceptionnel. On dit aussi qu'elle était très, très déterminée. Elle avait des rêves par rapport à cette, au chant, à vouloir faire carrière. Par exemple, en passant devant l'Olympia, elle va dire à son papa « J'aimerais chanter un jour à l'Olympia », ce qu'elle va faire, bien sûr, plus tard, en remplissant la salle pendant une semaine. Et elle va, en fait, justement, déjà, par exemple, repérer le grand compositeur Malik Hamdi, parce qu'elle va entendre une chanson qu'il avait composée pour Abdel Halim dans un film. Elle va, à ce moment-là, en fait, déjà aller plusieurs fois revoir le film pour écouter la chanson. Et elle va dire, en fait, à son entourage, à sa famille, un jour, il composera une chanson pour moi.
Le premier disque de Warda date de 52, et donc ça parle à la fois de son pays d'origine. Elle a 13 ans à ce moment-là. Donc finalement, c'est assez tôt que Warda chante l'Algérie. Il y a des chansons également qui parlent d'amour, Kalbilek, mon cœur est à toi. Et les chansons patriotiques sont malgré tout encore minoritaires. Et tout ça prend forme dans cette période-là où des milieux algériens et nord-africains de Paris ont des sympathies pour le FLN, puisque les événements, à l'époque on disait événements d'Algérie, la guerre d'Algérie naturellement.
Au Tam Tam, il y avait le jour et la nuit. La nuit, les jeunes militants qui n'avaient pas où dormir, eh ben, on leur faisait une petite place. Et ces jeunes militants, des fois, ils oubliaient des choses là-bas. Qui oubliaient un chargeur, qui oubliaient un revolver. Ce qui, par la suite, causera d'énormes problèmes.
Ce qui entraînera, évidemment, des ennuis pour son père, qui sera arrêté en 58, torturé pendant 10 jours, et finalement expulsé en Tunisie. Sa femme, qui était libanaise, parce que la mère de Warda libanaise, Nafissa Yamout, d'une grande famille musulmane libanaise, va décéder quelques temps après. Et finalement, la famille va suivre et tout le monde va se retrouver à Beyrouth pour quelques années.
On est tous partis au Liban, qui est la deuxième patrie de Warda, c'est vraiment étant libanaise, mais tout le monde est parti sauf la grand-mère. La grand-mère qui était très malade, n'a pas pu partir et rester là. D'ailleurs, elle nous a quittés quelques mois après, en 1958, à la fin 58. Et donc 58-59, ce sont les deux années de où elle a commencé à sa véritable première carrière internationale. Quand Warda arrive au Liban, Warda n'est pas connu. Warda était connu au Tam Tam. Le Tam Tam, c'est pas le nombril du monde. Hein. Elle arrive au Liban, il faut se faire une place, ce qui n'est pas facile à gérer. Et Warda, c'est pas la cantatrice qui arrive, qui a 3000 fans qui l'attendent, et des salles de concert de 10 000 places. Non, 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 pas du tout ça. Hein. Warda, elle est toute petite et on la découvre à Beyrouth. Warda travaillait dans des nightclubs, soit à Alay, soit à Beyrouth, chez Alejandra. Donc parfois deux passages dans deux clubs différents pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. C'est plus un job que de l'artistique. Et à Beyrouth, elle a commencé à apprendre à lire et à écrire en arabe. Elle ne savait pas lire et écrire. Toutes les transcriptions se faisaient en caractère latin. Les cousins de la famille Hamout ont appris à ma tante à lire et à écrire en arabe. Et là, elle a commencé à chanter des chansons patriotiques. Les deux grandes première chanson qu'elle a chantée, c'est Jamila. En pensant à Jamila Bouhiri, bien entendu. Et la deuxième chanson, c'est Ana men Jazair, ana Arabia. Je suis d'Algérie et je suis arabe. Jamila Bouhered est une militante de la première heure de la guerre d'Algérie. Elle a participé à la bataille d'Alger. Et c'est une grande figure de la révolution algérienne. Kulluna Jamila, nous sommes tous Jamila. بطل النبيل نبيل كلنا فداها سجن الأعادي بطلت بلادي وظلوا جميلة لا يوجد سواها كلنا جميلة كلنا فداها كلنا جميلة
C'est vraiment à Beyrouth qu'elle va, pour reprendre la métaphore de son prénom qui donc on va dire Rose, c'est là qu'elle va éclore.
Très, très vite, ce que vont remarquer des chanteurs, Mohamed El-Wahhab, Farid Latrache, ils l'ont connue enfant. Ce qu'ils vont remarquer chez elle, c'est une voix extrêmement souple, extrêmement nuancée, qui peut chanter tous les folklores, tous les dialectes arabes. Et qui a une espèce de souplesse. C'est une musicienne. Alors, on sait que la voix est un instrument, ça, c'est pas nouveau. Mais tous les chanteurs n'ont pas cette souplesse. Warda me fait beaucoup penser à Sarah Vaughan en jazz. Il y a chez elle des modulations, des nuances, des ruptures. C'est assez prodigieux.
Son répertoire va s'étoffer. Elle va prendre toute sa dimension de grande chanteuse pan-arabe, en fait, et pas la petite chanteuse douée d'origine algérienne à Paris. Elle va prendre une autre dimension, beaucoup plus internationale aussi. Le président Nasser, non seulement il aimait la musique arabe hein, profondément, mais il avait tout de suite eu l'intelligence de comprendre à quel point cette musique arabe pouvait servir son ambition pan-arabe. et pouvait être mise au service de la politique. Et donc il regardait cette scène musicale qui se développait au Caire de très près, et puis il était entouré d'une communauté à la fois de compositeurs et de chanteuses, comme bien sûr Aung Kyaw-soo, qui était considérée vraiment comme la première dame, on l'appelait d'ailleurs S7. Et donc il a entendu parler de Warda, et c'est lui directement qui lui a proposé de rejoindre cet opéra arabe, El Watan El Akbar, qui exprime la grandeur de la patrie. Quand on entend patrie, il faut entendre patrie arabe. Et c'est intéressant parce que justement, pour que cette patrie soit grande, il faut qu'elle englobe des chanteurs qui viennent de différents horizons, pas que égyptiens. Donc elle apporte ça aussi, elle montre le pluralisme de la musique arabe, de la culture arabe. Et c'est dans cette optique-là qu'elle rejoint cet opéra. Donc, dans cet opéra pan-arabe, se produisent d'autres chanteurs illustres de cette époque, notamment Abdel Halim Hafez, l'égyptien, mais aussi Faiza Ahmed, qui est syro-égyptienne.
Il y avait Shadia, il y avait Sabah et Wardak parmi ces personnes. Lorsque ce nashid, on appelait ça cet hymne, pratiquement, a été présenté à Abd al-Nasser, on l'a présenté donc tous les chanteurs, et Warda s'est trouvé nez à nez devant ce bonhomme, ce monstre, ce monstre sacré, ce géant. Et quand il lui a serré la main, Nasser lui a dit « Bienvenue à l'Algérie ».
La légende veut que ce soit Nasser qui ait dit Warda El Jazeria. Donc là, elle était juste la rose, elle était Warda, elle devient la rose algérienne. Et donc, c'est en Égypte qu'elle a ce brevet d'algérianité.
Mais en même temps, ce n'est pas non plus une limite. C'est-à-dire que c'est cette identité-là qui lui permet d'être reconnue dans une scène kérote où il y a beaucoup de concurrence, en fait. Elle n'est pas la seule. Il faut aller au Caire pour réussir. C'est là qu'elle affirme son identité algérienne. C'est ça en fait qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas besoin d'aller directement en Algérie. Elle le fera au moment de l'indépendance, c'est là qu'elle ira en Algérie. Mais il y a ce moment kérote qui est vraiment aussi très important. C'est la visibilité de Caire.
Alors sur scène, c'est une artiste très à l'aise dans son corps, dans sa voix. Rappelez-vous qu'elle a commencé à l'âge de 11 ans, donc elle a pratiqué la scène toute sa jeunesse. Et cette assurance qu'elle a, elle va se décupler quand elle va en Égypte dès 62, et là, elle commence sa carrière cinématographique. Donc elle va prendre l'habitude de poser devant la caméra et donc reprendre à nouveau beaucoup d'assurance. Et là, c'est Helmi Lafla qui lance sa carrière de cinéma avec deux films tournés en 62-63, de comédie musicale naturellement, et Warda ne fera que amplifier ses qualités. L'Égypte, ça correspond à ce que sont les pays anglo-saxons pour la pop et le rock. Donc imaginez ce qu'est l'Égypte pour le monde arabe. Et en arrivant en Égypte, c'est intéressant. Elle nous dira « Je découvre mon arabité ». Parce qu'elle sent qu'elle est dans un centre névralgique, vraiment le centre de gravité de la culture arabe. À l'époque, l'Égypte également, c'est le plus grand producteur de contenu, cinéma, musique, comédie musicale. Il y a quelque chose qui a un rapport avec Bollywood en Inde, vous voyez. L'Égypte, c'est Broadway pour nous les Arabes. Mais en plus, l'Égypte a un rôle leader dans le panarabisme. Et à ce titre, c'est intéressant parce que le panarabisme, historiquement, aujourd'hui, est en échec. Aujourd'hui, il n'y a pas un monde arabe uni. Vous voyez, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde d'un pays à l'autre. Mais à l'époque, ce rêve panarabe que Nasser a eu, finalement, il a été réalisé en musique par Warda.
Ces chanteuses, que ce soit Oum Kalsoum, Fayrouz, Warda, jouent un rôle vraiment de soutenir les populations arabes dans leur combat. À la fois, elles leur permettent de ressentir une fierté d'être arabe, et en même temps, les chansons sont comme une sorte d'élément un peu motivant pour ne pas baisser les bras, être au combat, voilà, se réunir. On appelle souvent l'état que provoque un chant arabe le tarab, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui émeut profondément. On n'est pas dans une consommation d'une musique, on la sent, on la ressent, on la vit. Et je pense que ce qui se joue dans ce chant arabe, à travers ces divas, qui sont vraiment un peu comme des chefs d'État par leur charisme, par leur faculté de réunir les foules et de transcender aussi les appartenances religieuses. Elles ont ce pouvoir comme ça de rassembler. C'est extrêmement puissant en fait, c'est le pendant culturel des chefs d'État.
اغنيه من كلمات الاستاذ علي مهدي ولحن الاستاذ عبد العظيم محمد.
À cette époque, tous les artistes égyptiens chantaient pour l'Algérie et ont soutenu la cause algérienne. Il y a eu un gala où Warda dit sur scène, tout le monde a chanté pour l'Algérie. Moi aujourd'hui, je chantais pour la Palestine. Et elle a chanté une chanson des trois frères de Dir Yassin. Talat Ikhwan min Dir Yassin. Chanson très triste qui relatait les massacres de ce village de Dir Yassin.
Talata Ikhwan min Dir Yassin. Amr al-Sughar. Talata Ikhwan min Dir Yassin. عمر الصغير تسع سنين عمر التاني أربعتاشر عمر التالت ستاشر تلاتة إخوة من دير ياسين عمر الصغير تسع سنين عمر الثاني أربعتاشر عمر الثالث ستاشر أبوهم راح من الدنيا وفارقهم وعاشوا العمر من بعده بحنان الأم أبوهم راح من الدنيا وفارقهم.
Mais bien chers frères, c'est avec fierté et émotion qu'au nom de l'exécutif provisoire algérien, j'ai, en ces premières heures de l'indépendance nationale, l'honneur et la fierté de vous accueillir sur le sol de la patrie que recouvre aujourd'hui l'ombre de notre drapeau. Mes chers frères, soyez les bienvenus. Vive l'Algérie indépendante.
Oui,
elle n'a toujours pas mis les pieds en Algérie, mais elle va les mettre bientôt, car figurez-vous que son père a souhaité un mariage pour elle. Elle avait rencontré un homme dont Warda tombera amoureuse. Alors c'est étonnant de tomber amoureux d'un homme pour lequel vous êtes prédestiné à un mariage par votre père. On est entre le mariage arrangé et l'amour sincère. C'est Jamal Kesri. Elle rentre en Algérie. Elle se marie avec cet homme-là qui a des responsabilités, qui a été lui-même un résistant. Et voilà que Warda se retire du monde de la musique pour consacrer sa vie à ceux qui seront ses deux enfants, Widad et Riyad.
C'est au moment de l'indépendance, au mois de décembre, en 1962. Elle a accepté. Elle a accepté et donc elle a mis une pause à cette carrière. Elle était très sereine, c'était une mère de famille extraordinaire. Elle vivait très bien sa situation. Elle vivait très bien parce que pendant les années précédentes, 58, 59, 60, 61, 62, pendant 5 ans, Warda a trimé, mais alors, sans arrêt, entre les galas, les répétitions, les enregistrements, les tournages, les doublages, tout ça, c'était quelque chose de éreintant. Et elle n'a que 20 ans. Elle n'a pas fait de pause. Elle avait une famille à charge. Pas évident. Et elle a très bien vécu son mariage. Elle chantait pour elle. On chantait ensemble à la maison.
Et voilà que, finalement, pour les 10 ans de l'indépendance algérienne, le président Premier ministre, puisqu'il cumulait tous les rôles, Boumediene, le ministre de la Défense, lui demande de chanter. Il appelle son mari pour demander l'autorisation à l'ancienne. Et voilà que M. Kesri dit oui, mais uniquement pour cette occasion. On fait venir un orchestre de l'Égypte et la chanson choisie est composée par Malik Ramdi, un immense compositeur de la jeune génération. Elle chante cette chanson, elle redécouvre des émotions, elle retrouve sa voix. Immédiatement, sa voix, elle est incroyable. En 10 ans, sa voix est restée au même endroit. C'est la voix de Warda, c'est comme quand vous posez une fusée sur la Lune sans encombre. C'est Apollo. La voix de Warda, c'est le violon de Menuhin. C'est le saxophone de John Coltrane. C'est vraiment ça, vous voyez. Et donc, c'est de la musique pure. De la musique pure. Et voilà que cette musique pure revient, renaît immédiatement de ses 9 ans de silence et que Warda sent qu'il faut qu'elle retourne vers cette musique-là. Son mari lui met un ultimatum, ce sera la musique ou ta vie de famille. Alors c'est douloureux. Elle va prendre la décision la plus terrible qu'une mère doit prendre. Elle quittera l'Algérie, laissera les enfants qui seront en garde chez leur père pour démarrer une carrière.
Vous vous rendez compte ? Seule, une femme seule, qui prend ses cliques et s'éclate, une main devant, une main derrière. Elle n'a pas un sou. Elle a plus 20 ans. Elle en a 30. Et elle doit se refaire une place en Égypte, là où il y a des grands noms de la chanson. Son talent lui réservera une place en or. C'est devenu la grande dame de la chanson. Là, c'est devenu la grande diva. Et la petite fille qui allait voir cette chanson composée par Balir retrouvera Bali Hamdi. Elle l'épousera en 1974, 73, 74, je ne me souviens plus. Et il lui composera d'énormes succès. Elle a eu des titres fabuleux. Le Rio Nessoud, Les Yeux Noirs, Khalik Rena, Reste Là, Dendana. Dendana, ça veut dire fredonner. Fiyoum Lilog, de Abdel Wahab. Enda Alik, de Abdel Wahab. Elle a chanté Ria Sombati, elle a chanté Mougi, elle a chanté tous les grands compositeurs égyptiens, Charnoubi, Sayed Mekawi.
Et c'est le début des chansons fleuves, pour elle. Balik Ramdi est l'un des pères de la chanson fleuve. La chanson se déroule à la manière d'une longue mélopée avec des variations vocales, des variations textuelles. Un orchestre qui joue entre l'unisson et des saillies de solistes. Hein. C'est l'époque où on intègre également le saxophone, la guitare électrique dans les orchestres arabes, des choses qui s'ajoutent à l'orchestre habituel. Et la chanson Fleuve est une chanson qui contient un leitmotiv également, vous voyez, qui revient de manière lancinante. Et c'est des chansons, oui, de 30 minutes. C'est la période des chansons fleuves et d'un idylle musical dingue. C'est que vous avez le plus grand compositeur du moment, la plus grande chanteuse du moment, et les deux s'épaulent. Mais l'homme n'est pas en volage, il est absent. Et donc des tensions naissent qui vont mener tristement à une rupture, après que la presse, sans doute malveillante, et fait peut-être plus de bruit que cela n'en méritait. Warda quitte Balig et reste ami et dira: notre amitié d'après la séparation me dit que dans le fond on aurait dû être un couple qui aurait dû durer.
Elle va être quand même très audacieuse, et ça je pense que ça lui vaut aussi cette image-là de femme libre, qui va aussi oser, par exemple, employer dans ses chansons des termes qu'on n'utilisait pas à l'époque. Voilà, un peu exprimer la fougue amoureuse. Elle va vraiment être un peu novatrice, ou elle va en tout cas oser et donner une autre image qui va être différente de l'image qu'avait en gros la femme à l'époque, et qui va aussi lui ajouter une aura et la différencier aussi des autres chanteuses.
Toutes ces chansons, ce sont des chansons qui durent dans le temps. Ça ne dure pas 5 minutes. Ça dure 30 minutes, 40 minutes. Et quand on répète les couplets, ça dure une heure et demie, deux heures. Ça, c'est la durée du passage de Warda sur scène. Et Warda était pas bête, l'animal. Quand elle a eu des problèmes de santé, elle s'est dit, il va falloir que je raccourcisse mes passages et que je puisse prendre mon souffle, même si je reste une heure et demie sur scène. Elle a commencé à penser aux petites chansons. Et c'est elle qui a introduit ça dans la musique à Mop. Avant, il n'y avait pas ça. Les petites chansonnettes, elles n'ont rien de petite. D'accord ? Ce sont des œuvres bien ficelées. Et c'est là qu'elle a commencé à chanter des chansons de courte durée, de 4-5 minutes, qui est déjà pour une chanson assez long. Des chansons comme Between Speak, Haram Tahibbek. Et ça, c'est une autre carrière qui a débuté avec ces chansons sous un autre registre, avec des chansons plus courtes qui permettaient à Warda de s'adapter à la scène.
Les deux tubes invraisemblables, c'est Haram Tahibbek et Between Speak, qui viennent tard dans sa carrière. Au moins, elle comprend qu'il faut qu'elle réduise la chanson fleuve pour aller vers des formats plus digestes pour une génération de public renouvelé. Et donc, c'est la période de Salah al-Charnoubi, immense compositeur, qui viendra donc lui donner de nouveaux succès après ceux des années 70 de Malik Hamdi.
Alterner, on va dire, des chansons courtes, des chansons de films hein, qu'elle appellera les apéros, des chansons apéritifs qui sont courtes justement, pour pouvoir arriver et amener le public quelque part à apprécier des chansons plus longues, plus adaptées, on va dire, à un public occidental peut-être aussi, ou tout simplement à une époque aussi, où voilà, ce genre de chansons n'est plus, on va dire, aussi reçu de la même façon qu'à l'époque.
لما تقرب انا بتونس
Sort de l'ordinaire, elle ne va pas être dans la tradition arabe pure. D'ailleurs, il y a une anecdote là-dessus où quand Mohamed Al-Wahhab lui compose un de ses plus célèbres titres, Fayoum ou Ilayla, la première fois où elle va l'interpréter en public, sur scène, bien sûr le public est conquis, mais Al-Wahhab vient la voir par la suite pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu as foutu ?» Et alors rigole, elle dit « Oui, il m'a dit les habepsi, enfin un terme en égyptien qui veut dire « Mais qu'est-ce que tu as foutu ?» Parce que lui qui était très clinicien, avec un style bien rodé, bien carré, Warda va bousculer tout ça, elle va chanter avec son style, avec sa personnalité, et c'est ça finalement qui va toucher et qui va marquer, on va dire, les générations d'artistes à venir qui vont interpréter ces chansons et qui vont être invités justement à la créativité, à la fusion, à aller chercher d'autres façons de chanter. Pour moi, c'est elle qui va inspirer en fait ce mouvement, on va dire, vers le métissage de la musique et le mélange, on va dire, culturel arabe.
Permis en fait de donner une forme aussi de modernité et d'ouverture au monde arabe. Elle a été vraiment le réceptacle aussi des sons des différentes époques que traverse Warda. Elle chante quasiment jusqu'à la fin de sa vie en 2012. Et donc elle se nourrit aussi de musique hispanique, des différents sons qu'on entendait à l'époque des cabarets à Paris. Ces cabarets étaient d'une certaine manière déjà très modernes parce que on les appelait des cabarets orientaux, mais ils faisaient aussi place à d'autres musiques comme le cha-cha, le mambo. Donc il y avait déjà un côté comme ça très hétéroclite. Et finalement, je pense que Warda, elle a formé son oreille à ça et c'est resté. Et elle a pris cette habitude d'intégrer d'autres sons. Je pense aux références hispaniques parce que évidemment la musique arabe dans son histoire. Elle a intégré aussi la période andalouse. Elle a cette trajectoire. Elle a vécu à Paris, elle a vécu à Beyrouth, elle a vécu au Caire, elle a vécu à Alger. Et donc, elle a l'habitude, comme ça, d'intégrer des sons qui sont partie prenante de ces capitales cosmopolites.
حرمت بحبك احبك ما تحبني.
Ce rapport entre elle et son public, il est ambivalent parce que sans doute elle a une forte chaleur humaine. Warda, c'est quelqu'un d'extrêmement chaleureux. Et à la fois, elle-même rapporte que les conseils qu'elle avait, c'était de garder une forme de distance pour préserver finalement, dans l'intérêt du public et de l'admiration qu'il lui porte, cette distance finalement qui fait de vous, comme nous disions, une diva. Donc c'est très ambivalent, très ambigu. Donc partager entre l'envie de partager et l'envie de garder une distance finalement respectueuse pour que le public tire pleinement profit de l'invraisemblable chance qu'il avait de la voir en direct sur scène. Il y a une tension amoureuse incroyable.
عشان ما تخسرش اي شيء لا 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 ظلمت قلبي وتقول بريء وسايبني وحدي وسط الطريق.
Warda va continuer à tourner mais va avoir des problèmes de santé énormes et donc va souffrir le martyre dans sa chair. Malgré cela, dans les années 2000, qui sont vraiment des années de souffrance et de maladie, elle va, lors des périodes de remission, chanter. Elle est par exemple en 2008 au festival de Baalbek au Liban, et 4 ans avant son décès. Décès donc qui survient le 17 mai 2012 au Caire, et son corps est rapatrié en Algérie. Pays de son père, évidemment. Et comme dit quelqu'un qu'elle a beaucoup aimé, qui était Wajdi El Hakim, les artistes ont un acte de naissance, n'ont pas d'acte de décès.
Elle va être présente dans beaucoup de reprises, en fait, d'artistes, des DJ qui vont remixer, par exemple, ses chants dans des discothèques arabes. Des artistes qui vont reprendre sa musique pour l'intégrer à leur œuvre, ou tout simplement interpréter à nouveau, redonner une nouvelle vie à ses chansons. Par exemple, en 2022, sa chanson d'être une Nisbik, qui est un grand succès de ses justement nouvelles chansons qu'elle va produire dans les années 90, va être reprise par une chanteuse américaine qui est Alia, pour être intégrée à un de ses titres. En 2022 également, son tube Batman is Big va être utilisé comme chanson d'introduction d'un épisode de Moon Knight des Marvel Comics pour représenter l'ambiance Kairot, pour représenter aussi la musique arabe dans son unité quelque part. L'artiste Beyoncé va également reprendre Batman is Big lors d'une présentation d'un concert qu'elle va donner à Dubaï. Elle continue à toucher, elle transmet en fait la joie et l'émotion comme personne, moi, pour moi. Et puis son répertoire est connu et reste écouté à nos jours. Enfin, pour moi, à côté de donc El Toum ou de Fayrouz, enfin, elle a exactement la même place. Mais j'essaie de voir un peu qu'est-ce qui pourrait la différencier, par exemple, de chanteuse. Et c'est ça, plus dans l'émotion, plus dans l'amour. L'exil aussi, je sais que, par exemple, moi, je pense souvent à une chanson d'elle, où elle chante l'exil, l'orba, et ça parle aussi beaucoup à la diaspora arabe à l'étranger. Il y a à la fois sa singularité au niveau de la voix, de l'émotion, il y a le fait que ces thématiques vont ouvrir un peu et toucher tout le monde, et il y a aussi le côté plus accessible de sa musique. Je pense qu'elle a modernisé, donc en fait c'est tout ça qui fait que finalement elle reste en fait la chanteuse qu'on va écouter plus facilement, parce qu'à la fois elle est entre le tarab et le moderne, et je pense que ça parle à plusieurs générations.
Elle a un peu créé une sorte de boîte à outils de sons et de langues qu'elle a intégrées dans ses chansons et qui ont fait cette grande modernité. Je suis sûre que ça joue dans le fait qu'aujourd'hui, les jeunes générations issues des révolutions arabes des années 2011-2012 se sentent des héritiers de la musique de Warda. Les révolutions arabes, ça a été les révolutions du monde arabe. C'est comme si on avait voulu recréer une forme de pan-arabisme à ce moment-là, alors qu'on pensait qu'il était mort avec les différentes tragédies, les différentes guerres au Liban et la fin en fait de cette espèce d'âge d'or des indépendances. Je pense que la musique de Warda a permis un peu de recréer ça, d'utiliser cette musique pour en faire autre chose.
La dernière chose qu'elle a chantée, c'était un petit clip publicitaire qu'elle a tourné en Algérie. C'est symbolique. C'est un clip qui dit « Nous sommes encore debout ». Mais elle n'a pas fait. Et pour Warda, ça a été son dernier chant patriotique.
C'était Warda Al Jazairia, 1939-2012, La Rose d'Algérie, avec Mounir Touki, Mario Chouéry, Véronique Riffel, Sahana Moulali. Merci à Mylène Touché de Lina, ainsi qu'à Antoine Vuilloz et à Marion Guilaine de la documentation sonore. Prise de son, Bertrand Montandon, d'ici Aix-en-Provence, Johanna Gabric et François Saint-Jour.
Mixage, Lucas de Rhodes. Coordination, Emmanuel Laurentin, assisté de Sandrine Chaperon. Un documentaire de Jeanne Mouchy,
réalisé par Somanina.
Keep me from getting at me, hun. Seems like that should make you happy, hun.
Thank you.